Bienvenue sur notre podcast Match après match.
On a une heure devant nous pour parler de l'actu de la Super League et notamment des clubs romands. On va revenir sur les matchs de Servette, de Sion et de Lausanne samedi soir. On reviendra aussi sur la victoire d'Yverdon, victoire très très importante au Municipal contre Winterthur. D'ailleurs, on y retourne dans quelques instants au Municipal. Les collègues sont déjà prêts sur place. J'ai juste le temps de vous présenter le casting autour de la table. Dans le salon de Match après match, il y a Stéphane Amoruso, il y a Tim Guimain et il y a Lucien Denervo. Salut les gars.
Salut.
Première question pour toi, Lucien. C'est le coach que j'ai envie d'entendre. On a souvent essayé de nous dire qu'on dédramatisait un maximum ces semaines avant un match très important, avant un match contre la relégation, avant un match pour le titre, pour mettre le moins de pression possible sur les joueurs ou sur l'équipe. Mais en réalité, c'est quand même des semaines très, très particulières.
Elles sont importantes, très importantes, évidemment, puisque là, c'est vraiment le match du relégué. Et aujourd'hui, je pense que Yverdon se devait de gagner. Et puis, c'est quand même une semaine qui est un peu spéciale, évidemment, quand c'est comme ça, parce que tu la prépares pas différemment dans le sens où tu travailles tout autant ce que tu dois travailler durant la semaine. Mais par contre, tu as un aspect qui est plus qu'important, c'est vraiment cette place de relégable. Et je crois que Yverdon a eu plus la rage aujourd'hui par rapport à Winterthur. Et on le voit sur le score 3-0 à la fin, ça va faire plus mal à Winterthur qu'à Yverdon. Mais c'est des semaines, en tout cas, qui peuvent marquer et puis qui sont marquantes.
Ouais. Semaine aussi extrêmement spéciale en plus d'un titre parce qu'il y a eu un des meilleurs joueurs du championnat qui a rejoint l'équipe, c'était pas prévu et voilà, donc il arrive, Antonio Marquesano. Donc forcément, ça aussi, quand tu mets un ingrédient de plus dans ta semaine, forcément ça donne une saveur particulière aussi.
Ouais, c'est vrai, première victoire de Yverdon en Super League depuis le 26 octobre. Rendez-vous compte, c'était à Lucerne et la première victoire à domicile, faut remonter au 20 octobre, c'était contre Lugano au stade municipal. On y va justement au stade municipal. Les collègues sont prêts. Daniel Burkhalter est là avec Paul Bernardoni et avec Alain Rochat. C'est à vous pour le débrief, messieurs.
Alors oui, messieurs, vous l'avez dit, une semaine marquée, marquante et presque Marquesano, j'ai envie de dire, et ça, on va en parler après. On a la chance d'accueillir Paul Bernardoni, qui vient de fêter une belle victoire avec Yverdon. Paul, justement, c'était une semaine particulière, c'est un match qui était très attendu ici.
Tout à fait, c'était un match où, entre guillemets, soit, j'ai envie de dire, tout était relancé pour le championnat d'en bas. Ou alors, on arrivait à creuser un petit peu, parce que si je dis pas de bêtises, on les met à 7 points, et moi je compte aussi le goal average, donc on est quasiment entre 7 points et demi, 8 points, donc c'est quelque chose de très très important, et très sincèrement, on a vraiment livré une belle prestation, on a été costaud, c'est bien, et on a réussi à en mettre 3 aujourd'hui, et c'est quelque chose, ça fait longtemps, ça nous était pas arrivé. Donc ouais, marqué, marquante, c'est cool.
Alors, je pose la question à l'ancien joueur que tu es. Ces semaines où on a un match très attendu, périlleux, comment est-ce qu'on les vit en tant que joueur, en fait ?
Alors, l'approche est la même. On a la même éthique de travail. Mais au fond de nous, on sait que ça peut être justement un premier tournant. On a soit justement on relance tout, ou alors on peut se mettre un peu de la distance. Donc c'est quand même des matchs qui sont particuliers. Et quand il y a une victoire, c'est quand même une saveur particulière.
Justement, quand on dit souvent, mais il y a tous les matchs, c'est un match l'un après l'autre, tous les matchs se ressemblent, c'est pas vrai en fait.
Alors au niveau des points que tu peux gagner en tant que victoire, oui, c'est 3 points, mais c'est vrai que là, il y a un aspect psychologique qui rentre en ligne de compte. Et là, je pense qu'au niveau d'Yverdon, cette victoire va leur faire un grand, grand bien pour la suite des matchs à venir.
Alors Paul, on va revenir juste sur ce match. Alors le premier fait marquant, c'est ce penalty de la 8e minute. Alors, vous êtes à l'autre bout du terrain, vous ne voyez peut-être pas ce qui se passe. Est-ce qu'on... C'est presque heureux à ce moment-là, non ?
C'est presque heureux. Disons qu'on le prend, hein. On le prend. Après, très sincèrement, moi, je suis très loin. J'ai pas vu les images. En tant que gardien de but, je pense que je serais frustré de prendre un péno comme ça. Mais d'un autre côté, je pense sincèrement que Marley, il va marquer, sinon, s'il n'y a pas le contact. Mais bon, on le prend, tant mieux pour nous. Là, ça a tourné en notre faveur. On a su être solide. On a quand même subi 2-3 occasions. On est resté bien solide et on a réussi à enfoncer le clou et puis à tuer le match à la fin. Donc non, c'est très bien. Mais après, comme pour revenir un petit peu à ce que vous étiez en train de dire, moi, ce qui de par la chance que j'ai eue, l'expérience que j'ai vécue. J'ai souvent vécu des matchs coup près, tout ça. Et en fait, ça, c'est un attendu de ce qu'on va avoir en fin de saison. Ça va être des matchs à coup près. Et c'est très bien de les remporter dès maintenant parce qu'on sait déjà les ingrédients qu'il faudra mettre. Alors, l'équipe d'en face sera toujours... On va être analysé, on va être jugé, mais tant qu'on peut prendre des points, on les prend. Et quand ça va être les matchs... Vraiment, il va falloir, entre guillemets, ça va être le couteau entre les dents. Voilà, ça va être ce type de match-là qu'il va falloir faire.
Mais il y a ce but qui tombe très tôt dans la partie. Vous n'aviez plus marqué depuis longtemps. Et derrière, Yverdon recule, laisse le ballon à Winterthur. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ah, ce qui s'est passé, c'est que je pense que ça fait longtemps que vous n'avez pas marqué et que vous avez, entre guillemets, que vous ne gagnez pas quand même depuis pas mal de temps. Il y a toujours cette crainte un peu, je pense, qui est assez naturelle. Mais à la mi-temps, le coach nous a quand même... nous a fait la demande d'aller plus haut, d'être courageux, d'aller les chercher. Et on a vu que ça a marché. Alors c'est sûr, hein, on laisse des plumes. Mais qu'est-ce que c'est bon quand ça réussit ? Parce qu'au final, on pousse l'adversaire à faire des erreurs. Alors oui, on subit des choses et tout, mais après, à nous d'être solides aussi. Et la preuve en est, c'est que ce soir, voilà, on gagne 3-0. Et je pense qu'un Yverdon en deuxième, c'est le Yverdon qu'on doit avoir.
Ouais, moi je m'inquiétais justement après l'ouverture du score. Je me suis dit... Il recule. Tout le match comme ça, c'est dur. Donc, il y a vraiment eu un message à la mi-temps parce que, en tout cas, le changement, il était drastique. On a vu Yverdon qui allait beaucoup plus haut sur le terrain, les gêner dans la construction et ça a payé. Donc, ça, c'était une stratégie gagnante.
Bah oui, et je dirais même la vraie stratégie, j'ai envie de dire, c'est venu aussi du vestiaire parce qu'à la mi-temps, j'ai senti 2-3 gars très frustrés en disant « mais si on continue, on va le payer ». Et puis le coach nous a offert les solutions et on est parti les chercher. Et oui, c'est des fois mieux.
Ça fait du bien.
Et justement, cette deuxième mi-temps, c'est le jour et la nuit par rapport à la première. On a tout d'un coup vu Yverdon qui jouait plus haut, qui allait chercher les occasions. C'était un autre Yverdon, en fait.
Oui, puis je pense que le public est heureux de voir ça aussi. Il faut être honnête. C'est en tout cas ce que le coach nous demande. C'est ce que nous, on essaye de faire au quotidien, aux entraînements, d'aller chercher. Et c'est bien que, entre guillemets, on ne l'ait pas payé cash en première, le fait de reculer. Et ce qui est cool, c'est que la deuxième, ça a vraiment bien fonctionné. Donc du coup, bah, ça met de la confiance. Et maintenant, c'est parti. Il faut continuer. Il faut essayer de glaner un maximum de points. Et après, on verra ce qui va se passer.
Et finalement, on a envie de dire, Alain, le 2-0 tombe logiquement et le troisième finalement aussi, quoi.
Oui, alors sur la deuxième mi-temps, moi j'ai trouvé vraiment qu'il y avait une attitude où on a senti que Winterthur a pris un coup sur la tête après le 2-0, mais ça venait quand même récompenser justement cette prise de risque, se dire « on va aller chercher plus haut, on va aller les déranger dans leur camp ». Et après 2-0, on sent la dynamique qui change, 3-0 sur la fin, ça aurait été beau pour Marquezano, l'histoire aurait été très très belle, mais c'est de bon augure pour la suite, pour le futur, et je pense qu'on se réjouit de voir ça à Yverdon.
Justement, Paul, on va en parler, 66e minute, tout ce que le public attendait, entrée d'Antonio Marquezano. Comment est-ce que vous avez accueilli ce joueur ? Comment vous avez appris la nouvelle, en fait ?
Nous, on est heureux. Très sincèrement, c'est ce qui est plaisant quand on est joueur à l'intérieur d'Yverdon. C'est de voir qu'on arrive à attirer des joueurs comme ça. C'est toujours cool et ça montre que notre projet plaît, ça montre que notre équipe plaît, que notre club est attractif. Et donc il faut continuer. Et c'est ce que je dis, c'est que c'est pas un joueur qui va changer l'équipe. Mais par contre, c'est sûr que ça ramène de la qualité, bien évidemment. Ça ramène aussi beaucoup d'expérience. Et on est ravis de l'avoir avec nous. Et ouais, il a failli marquer, mais j'ai pas de doute, il va nous en mettre.
Bah merci Paul, merci beaucoup d'être venu. Alain, merci beaucoup. On va quand même pas se quitter sans souhaiter un joyeux anniversaire à Alain Rochard.
Ah, merci.
Et voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis Yverdon.
Ouais, c'était hier, samedi. Bonne fête à toi, Alain. Très très bon, hein, les questions d'Alain. Très bon consultant, Alain Rochat.
Ouais, il a dit une chose que j'ai beaucoup aimée, c'est la psychologie. Tu sais que j'ai la chance d'habiter Yverdon. Et cette semaine, c'était fou parce qu'on a eu des mois de négativité. Cette ville, ses supporters ne voulaient plus d'Alessandro Mangiarati, à tort ou à raison, mais c'était en fête. Et maintenant, moi, cette semaine, j'ai entendu parler il y a un nouveau coach, il y a un nouveau joueur qui vient de Zurich, même si on ne sait pas qui c'est, le grand public et tout, on croit de nouveau à cette équipe d'Yverdon, et tu sautais, vraiment, et dans les cafés d'Yverdon où je vais le matin, tu sautais quelque chose de positif et qui débouche sur un 3-0 le dimanche, et moi je pense qu'il n'y a pas de hasard. Et une chose qui m'a fait plaisir aussi dans l'interview, c'est qu'on a vu que Paolo Tramezzani, il avait influé sur la rencontre. Il a été trop vite étiqueté coach défensif, et c'est pas vrai. Alors oui, il s'est aussi joué comme ça, Paolo Tramezzani, peut construire des murs de béton, mais c'est pas que ça. Et je suis heureux de voir que ça a été relevé, qu'aujourd'hui, Yverdon a changé d'état d'esprit à la mi-temps grâce notamment à son discours.
Et il l'a dit, hein, il a tenu à le dire, il a tenu à le préciser. Je ne suis pas seulement ce coach défensif. J'ai appris des choses en Croatie, j'ai appris à jouer différemment, plus offensif, même quand nous, on n'a pas le ballon. Et on le voit quand même, ces joueurs, le comportement des joueurs qui vont chercher plus haut, des types qui sortent, l'autre qui reste de l'autre côté, c'est très, très intéressant. Bon, ils ont parlé de Marquezano. On ne va pas ne pas parler de Marquezano. C'est quand même le gros transfert de la semaine. Il y en a eu plusieurs, mais pour moi, le gros transfert de la semaine. Vous, vous êtes plus surpris, vous êtes plus emballé par ce transfert. Là, quand vous avez appris la nouvelle...
C'était une surprise pour tout le monde, je pense. Même pour Zurich. Le club et surtout le président Ciro Canepa, on l'a eu en interview et il le dit. Et on verra après ce qu'il va dire parce que c'est assez incroyable. Marquezano, ben oui, c'est... Et aussi, on l'a lu dans la presse, etc. Enfin, voilà, si on ne demande pas, eh ben on ne sait pas si on peut avoir quelque chose. Donc, évidemment, c'était... on l'a lu avec toi. Mais... Évidemment, Yverdon a eu raison d'aller demander. Voilà, tant qu'on ne demande pas, on ne sait pas. Et là, toutes les planètes étaient alignées. Et puis, ce joueur qui arrive, cette aura avec lui qui l'apporte, ça s'est reflété sur le match aujourd'hui aussi.
Il a dit qu'il retournerait un jour à Zurich, hein, en larmes. Je retournerai un jour à Zurich, peut-être comme dirigeant, en tout cas, ou dans un staff. Pour le moment, c'est un joueur d'Yverdon, mais il y a une semaine, si sur ce plateau, dans ce salon, j'avais dit ça, est-ce que si vous aviez été là, vous m'auriez cru, franchement, Lucien.
On t'aurait ri au nez, clairement. Merci. Non, clairement. Mais je pense que c'est une belle trouvaille pour Yverdon, évidemment. Et puis, il va apporter de l'expérience, évidemment, puisqu'il y a un qui tire très bien les coups de pied arrêtés aussi. Et ça peut faire aussi du bien. On le voit très bien du côté du FC Bâle avec Shaqiri. Alors attention, il n'a peut-être pas la même qualité que Shaqiri, mais il a une belle qualité quand même au niveau suisse. Et c'est vrai que ça va faire un énorme bien. En tout cas, on l'espère du côté d'Yverdon. Maintenant, tout le monde siffle, tout le monde est content, tout le monde est heureux du côté d'Yverdon. C'est un match, c'est vrai que c'était un match à gagner. C'est une semaine anglaise, il y a 3 matchs cette semaine. Tu perds mercredi ou jeudi quand ils vont jouer Yverdon et puis Winterthur gagne. On ne sait pas comment ça peut se passer. Et tout est relancé pour le week-end d'après. Donc voilà, c'est bien, c'est clair que là, tu fous quand même un bon coup de massue à Winterthur. Mais c'était le match à ne pas perdre aujourd'hui. C'est clair que Marquezano, il va faire un énorme bien pour ça du côté d'Yverdon.
Mais non seulement tu prends tes distances sur Winterthur, mais on rappelle que tu te retrouves là maintenant 10e avec un point d'avance sur Getse. C'est très important aussi, même si Getse est dans une série plutôt positive, on va dire. Getse ne perd plus depuis que Thomas Oral est là. J'essaye un petit truc comme ça, une petite analogie.
Peur,
une petite analogie. Bah, Tim, il a toujours peur quand je regarde comme ça. Bon, on a dit les fans zurichois était quand même surpris en mal. Il y a beaucoup de fans qui étaient, quand on a regardé sur les réseaux sociaux, ils étaient certains outrés même d'avoir appris ce transfert à Yverdon. Tout le contraire. Est-ce qu'on peut dire qu'à Yverdon, ce transfert, c'est équivalent à Sion quand Sion a pris Balotelli? Est-ce qu'on peut comparer ça?
Non.
Pas un joueur international qui a joué comme ça, mais je dis dans la sphère d'Yverdon. Ce genre de transfert-là, c'est ça que j'entends.
Alors moi qui suis Yverdon depuis 30 ans maintenant, moi, je peux te le dire, je pense que c'est le plus gros transfert de l'histoire d'Yverdon, avec Djibril Cissé dans un autre style, qui a 5 ans maintenant. Mais oui, Antonio Marquezano qui vient à Yverdon, c'est sportivement très intéressant, puis c'est aussi très intéressant pour tout le reste, justement. Et Paul Bernardoni le dit bien, pour crédibiliser le projet aussi, Yverdon a besoin de ça aussi, parce que Franco Gonzalez, qui devait être numéro 10, champion du monde avec l'Uruguay et tout, s'est blessé, il est reparti. Yverdon avait besoin d'un joueur créatif qui amène un peu de lien entre les lignes et surtout un petit peu de créativité, justement. Et c'est un transfert qui est aussi bien sportivement bien vu que pour tout le reste.
Et on se réjouit, moi, franchement, je me réjouis de le voir évoluer avec Cespedes, moi, c'est un truc qui me fascine déjà. Quoi.
Et Matteo Szlegowski.
Et Tazar.
Ouais, alors, oui. Devant, ouais, t'as moi.
Oui, d'accord, non, mais ce que je veux dire, côte à côte, là, dans l'entrejeu, Stéphane.
Il y aura une sacrée qualité, effectivement, création de jeu, etc. Ça, c'est vraiment, alors, c'est clair, on le savait. Même pour Zurich, c'était une plus-value incroyable, Marquezano. Hein. Après, ça s'est un peu mal passé, on pourra en discuter aussi. Pourquoi, mais oui, évidemment. Déjà, on disait que Cespedes, c'était le métronome de cette équipe. Maintenant, tu as Marquezano. Oui, vraiment, on est très, très, très...
Vas-y. Impatient. Pas besoin de lever la main.
Non, je voulais quand même rajouter quelque chose par rapport à ce que j'ai dit avant, parce que je pense que je vais quand même me faire engueuler. Antal Nagy, quand il vient à Yverdon, il est international hongrois. C'est quand même quelque chose aussi. Mais je le rajoute.
Mais ouais, en fait, j'essayais pas de comparer, mais toi non plus en vrai.
Non,
on n'essaie pas de comparer. On sait que Balotelli c'était une star internationale, par exemple. Mais je trouve juste, j'ai pas. C'est vrai que si c'est, j'avais pas pensé. Pourtant, c'est plus proche dans le temps. Mais pour moi, c'est vraiment le méga transfert à Yverdon et je me réjouis de voir Marquezano.
C'est le méga transfert d'un club suisse à un autre club suisse.
Oui,
ça, oui.
Ouais,
ça, oui. Alors c'est vrai. Ça, c'est vraiment peut-être l'un des plus gros transferts de l'histoire, si ce n'est le plus gros, d'un club suisse à un autre club suisse pour Yverdon.
Ouais.
Ça, oui.
Après Jocelyn, non. on parle d'un joueur qui a plus de 400 matchs en Swiss Football League quand même. Il a signé jusqu'en 2026. Est-ce que, justement, ce trio, moi j'aimerais bien l'évoquer, Tazar, Cespedes et Marquezano, même s'ils vont pas jouer côte à côte. Mais là on a quand même de la qualité, franchement.
Il y a de la qualité, après ça dépendra aussi de l'état de la pelouse. On a vu qu'aujourd'hui le municipal n'était pas facile à jouer, attention, hein, mais je rigole par rapport à ça. Mais c'est vrai que ça peut apporter quelque chose. Et puis ce que j'aime beaucoup chez lui, ben, c'est la zone de vérité, donc les 20 derniers mètres. Et lui, il arrive à faire la différence. Aujourd'hui, il aurait pu marquer, il n'a pas marqué, mais il a fait marquer. Donc ça, c'est une chose qui est intéressante. On voyait qu'il avait à cœur de marquer, il était même déçu hein, de ne pas la mettre au fond. Mais c'est ça qui va être intéressant. Et c'est pour ça que je reviens sur les coups de pied arrêtés, l'importance des coups de pied arrêtés. On sait que beaucoup de matchs peuvent se jouer là-dessus. Et puis lui, il a le pied, il a cette expérience aussi pour... Puis la niaque, il a cette envie chaque fois. J'aime beaucoup chez lui, chez Marquezano, ça. Et ça a toujours été un très bon joueur chez nous, en tout cas au niveau du milieu de terrain. Et oui, il va évidemment faire un énorme bien du côté d'Yverdon. Maintenant, c'est à lui de s'acclimater le plus rapidement possible. Mais je pense que ça ne va pas prendre trop beaucoup de temps. Surtout que la langue, par rapport au coach, je pense qu'elle est la même. Donc ça peut aider. Non, mais ça peut aider. Il parle le français, il parle toutes les langues.
C'est
hyper
polyglotte,
important. Sachant le nombre de langues qu'il y a du côté d'Yverdon, donc ça, c'est quelque chose qui est hyper
c'est
important.
C'est vrai, tu fais bien de le relever.
Je m'excuse, j'insiste sur même mon Matteo Szlegowski de la discussion, mais il est vraiment fort.
Mais
parce que tu nous redis Cespedes Tazar et tout, mais Szlegowski, c'est vraiment le gars qui, derrière, avec Cespedes, va pouvoir justement permettre à Marquezano d'être libéré. C'est un joueur majeur de Super League.
Ouais. Non, mais à part ça, là, maintenant, moi je trouve que. Alors, on ne va pas s'emballer non plus, hein, ils ne vont pas être champions et aller en Champions League, mais. Qualitativement, on a quand même, là, maintenant, c'est vrai, il y a l'histoire de la pelouse, mais on a quand même des joueurs qui ont des bons pieds, qui ont un QI foot assez élevé pour se sortir de cette situation-là et puis pour se maintenir en Super League, peut-être sans passer par les barrages. En tout cas, c'est mon point de vue.
Oui.
Ah, cool, il est d'accord. Il y a Sapin 2000 qui est de retour. Il nous dit...
Ça fait longtemps.
« Je vous ai manqué, paraît-il, parce qu'on en a parlé la semaine dernière. » Donc cool, il est de retour, Sapin 2000. Il a une question très, très intéressante. Je la pose maintenant, mais je vous propose d'en parler juste après. Mais j'aimerais vraiment, vraiment qu'on aborde ce point. Que se passe-t-il au FC Zurich, ambiance toxique? Comment expliquer tous ces départs? Donc on va en parler, parce qu'on aura une interview de Canepa, du président du FC Zurich. Mais je préfère juste qu'on aille dans l'ordre. D'abord, j'aimerais vous proposer d'écouter l'interview d'Antonio Marquezano. C'est la première interview d'Antonio Marquezano après un match sous les couleurs d'Yverdon. On l'écoute.
Antonio, les premières minutes jouées pour Yverdon, comment est-ce que vous avez été reçu ici?
La vérité, j'ai vraiment très content. Je suis rentré, j'étais excité comme si j'avais 20 ans, je voulais tout faire. Mais le problème, c'est qu'après 10 minutes, j'avais plus d'air. Je voulais plus. J'étais presque mort, mais vraiment, je suis content qu'on a commencé... cette aventure avec une victoire 3-0 net et en bonne partie, très bonne partie, solide. Alors, tout magnifique aujourd'hui.
Le football, c'est bizarre. Il y a quelques jours, vous étiez prêt à disputer un classiqueur, un match pour le titre. Et là, vous vous retrouvez à disputer un match de bas de classement. C'est étonnant.
Ouais, c'est un autre, comment on dit, challenge. Je suis vraiment content d'être ici maintenant. Et je suis prêt pour me battre pour quelque chose d'autre. C'est beaucoup difficile aussi le but qu'on a. Mais je pense que si on fait des matchs comme ça, comme on a entré aujourd'hui avec tous ensemble, avec on a montré vraiment qu'on voulait gagner absolument. Et je pense que le coach il nous donne cette mentalité. Si on continue dans cette roue comme ça, on va avoir une belle histoire cette année.
Voilà pour le jeune Antonio Marquezano, jeune de 20 ans, 295 matchs avec le FC Zurich. Qu'est-ce qui va amener Antonio Marquezano exactement à Yverdon maintenant ?
Bah, son expérience, sa qualité technique et puis sa finition, ou faire finir les actions du côté d'Yverdon sur le plan offensif. Moi, je pense que c'est ça que vraiment Marquezano va apporter du côté d'Yverdon.
Bien, on a eu le son de cloche d'Antonio Marquezano. Maintenant, il faut entendre celui d'Ancelo Canepa, c'est le président du FC Zurich. On est allé le voir, on lui a posé la question concernant le départ d'Antonio Marquezano. C'était ce dimanche, avant le match du FC Zurich.
Tout d'abord, je dois dire que le départ d'Antonio nous a fait mal. Nous avons vécu beaucoup d'années ensemble. Il était un joueur très important de l'équipe. Il a toujours donné 100%, marqué beaucoup de buts et donné beaucoup d'assists. On a été champions ensemble, on a gagné la coupe ensemble. C'était vraiment un joueur clé. On n'a jamais eu de problème avec lui. On préparait même son jubilé, son 300e match avec le club. On l'aurait fêté avec lui dans 2-3 semaines. Et puis, il y a 2-3 jours, il est venu nous voir en disant « J'ai reçu une offre d'Yverdon et j'aimerais y aller ». J'en ai parlé avec le directeur sportif et nous nous sommes rapidement mis d'accord sur le fait que nous ne voulions pas nous mettre en travers de sa route et nous avons accepté le cœur lourd, cette offre. Mais quand quelqu'un s'est autant engagé pour le FCZ, nous voulions aussi l'aider à franchir une nouvelle étape.
Voilà pour les coulisses de ce transfert vu par le FC Zurich, vu par son président. Voilà, il y a quand même cette phrase. On avait commencé à préparer son jubilé. Il était à 5 matchs des 300 matchs avec le FC Zurich. Cette volonté de partir, moi, ce qui m'interpelle, et c'est la question de Sapin 2000, j'y reviens. Qu'est-ce qui se passe au FC Zurich ?
Ça montre à quel point un joueur majeur d'un club avec un club qui a été champion il n'y a pas si longtemps, qui a gagné la Coupe, un joueur qui ne voulait pas partir, visiblement, il y a quelque temps encore. Comment il a pu changer d'avis ? Pourquoi ? Parce qu'à mon avis, c'est que le mien, l'arrivée d'un certain Ricardo Moniz et du directeur sportif Milos Mladenovic, ben voilà, ça a fait que, on voit, Ricardo Moniz, il a un style de coaching très spécial. Okita en a fait les frais, Bayrami en a fait les frais. Est-ce que Marquezano en a fait les frais ? Je pense. Zuber est arrivé, Marquezano l'a aussi dit, il pensait pouvoir jouer avec lui. Et finalement, ce n'était pas le cas.
On peut rajouter Katic. Hein,
voilà, il y a aussi eu d'autres départs, effectivement. Il y a Mathieu qui va aussi partir vraisemblablement. Donc il y a un peu cet exode de joueurs zurichois qu'on va connaître. Et qu'est-ce qui a changé vraiment significativement dans l'équipe depuis si peu de temps ? Eh ben, c'est l'arrivée du nouveau coach. Alors après, on peut être d'accord ou pas avec les idées, mais c'est là où on voit que quand ça ne joue pas, ben, ça peut même faire partir ce genre de joueurs emblématiques.
Oui, parce que tu l'as dit, le président d'Yverdon, Jeffrey Sanders, il a approché Antonio Marquezano. Il lui a dit, voilà ce qu'on peut te proposer à Yverdon, concrètement une belle offre financière, et jouer à Yverdon. S'il n'y avait que ça, il ne serait pas venu. Donc forcément que quitter le FC Zurich comme ça, du jour au lendemain, venir le mercredi soir en disant « je veux partir à Yverdron », honnêtement, c'est qu'à Zurich, ils sentaient que c'était plus sa place, malheureusement. Ouais. Donc voilà, même si financièrement, il est mieux à Yverdron qu'à Zurich, ce qui semble fou de dire ça, mais c'est la vérité, il y a quelque chose qui ne jouait pas.
Lucien.
Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, vu de l'extérieur, en tout cas, ça semble être le cas, c'est vrai. Après, bon, il a préféré avoir un Zuber. On peut pas parler qu'il lance quand même les jeunes hein, aussi. Hein, ça, c'est vrai, du côté du FC Zurich. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'histoires depuis son arrivée. C'est quelqu'un qui est très exigeant, on le voit. Hein. Mm-hmm. L'histoire de Bagrami, tu l'as dit, mais celle-là, elle est incroyable. Hein. Ouais. Et voilà. Donc, moi, je suis pas à l'interne, évidemment, du côté du FC Zurich. Je sais pas exactement qu'est-ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui tombe pas rond du côté Zurich, quoi.
Petite question. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument entourer dans votre agenda la 29e journée, le 29 mars prochain?
Ouf. Là, il y a en blanc, tu dois acheter.
Il y a IB Saint-Gall.
OK.
Pourquoi faut-il...
Nsamé.
Jean-Pierre Nsamé, deuxième gros transfert de la semaine. Qu'est-ce qui vous évoque ce retour, cet énième retour, j'ai envie de dire, parce que c'est pas la première fois qu'il revient. Il part à l'étranger, il est allé à Venise, il est revenu, il est parti à Côme, il est allé en Pologne, il est revenu.
Il a quel âge, Nsamé?
31.
Il commence à être un petit peu sur l'âge. Maintenant, on verra. Il a eu des passages très difficiles à l'étranger, quand même. Maintenant, c'est vrai qu'on a toujours le Nsamé de Iber, qui a beaucoup marqué. Il est à 2 buts, c'est juste.
Oui, 2 buts du record de Strehler.
Donc ça, je pense qu'il signe en Suisse aussi pas pour rien. C'est pour battre ce record. On sait que c'est un buteur, évidemment. Est-ce que ça va passer du côté du FC Saint-Gall? C'est pas sûr, on le verra. Il a eu ses premières minutes de jeu. Mais c'est clair que c'est un joli transfert du côté du FC Saint-Gall, mais on attend beaucoup de lui. Après, il y a quand même un Rebels qui tourne énormément bien. Est-ce que Rebels, avec Nsamé, ça pourrait tourner? Oui, je pense que ça pourrait faire un beau duo d'attaque, c'est vrai. Maintenant, il faudra peut-être un petit moment afin qu'il puisse s'adapter du mieux possible du côté de Saint-Gall. Mais c'est vrai qu'en termes de transfert, c'est joli. Maintenant, j'attends quand même de voir qu'est-ce que ça va donner sur le long terme.
Pour autant que Rebels reste, ça c'est encore une autre question. Ouais. Mais Enrico Masson l'a dit à notre micro avant le match. Pour lui, clairement, les deux peuvent jouer ensemble devant. Donc, il a aussi dit, voilà, il est arrivé un petit peu diminué, il doit se remettre aussi évidemment en condition, il n'a pas beaucoup joué lors des derniers mois, il est rentré aujourd'hui, il peut clairement apporter évidemment là aussi, bah, comme un Marquez Anoa-Iver dans toute son expérience aussi à Saint-Gall, ça peut faire que du bien à Saint-Gall. Après il y en a certains qui peuvent se demander, voilà, on en parlait à Servette, IB évidemment vous oubliez parce que avec ce qui s'est passé quand il est parti, ça aurait été très très étonnant. Puis là tout d'un coup Saint-Gall arrive, alors je ne sais pas comment ça s'est passé, peut-être comme pour Marquez Anoa-Iverdon, ils ont toqué à la porte, ouais, on aimerait bien, et puis ça s'est fait. Mais en tous les cas, pour le championnat, c'est une très bonne chose, pour Saint-Gall aussi, pour Nsamé aussi, donc c'est du win-win pour le moment, en tout cas j'espère.
Et il a besoin de temps de jeu, hein. il a besoin de jouer, Jean-Pierre Nsamé, on nous demande, c'est Chris Lausanne qui demande Nsamé à Saint-Gall pour un prêt, ou définitivement il est prêté par Côme jusqu'au terme de la saison avec option d'achat pour les Brodeurs.
Oublions quand même pas qu'il y a Chadrack Akolo, qui est le meilleur buteur du championnat l'année passée, co-meilleur buteur. Moi je suis pas convaincu, je suis un peu plus sceptique que vous honnêtement, je suis pas convaincu que Jean-Pierre Nsamé soit forcément tout de suite en titulaire à 100% aujourd'hui à Saint-Gall. Alors le record de buts, il va le battre, 2 buts, 3 buts, il va les mettre, c'est sûr, deuxième tour. Moi je suis pas convaincu qu'il va être à Saint-Gall un joueur aussi majeur qu'il l'a été quand il a quitté la Suisse. Saint-Gall c'est le club idéal pour un attaquant, mais il y a des attaquants qui tournent bien, il va avoir ses minutes, il va avoir du temps de jeu. Je m'attends pas à le voir tourner un but par match, mais qui me prouve le contraire.
Mais c'est une bonne chose pour Saint-Gall, pour Nsamé, pour les deux,
c'est trop. Pour les deux.
Pour les deux.
Moi, je trouve pour les deux. Comme on a dit, il a besoin de jouer, il a besoin de se relancer.
Et Saint-Gall avait besoin d'un Saint-Gall, attaquant.
Saint-Gall, Cadenas aussi, dans l'optique où Rebels part, ou s'il y a quelques problèmes que ce soit avec l'un ou l'autre attaquant. Pourquoi pas? Encore une fois, c'est du win-win.
Et ses retours en Suisse? On a parlé d'Ensamé, il y a Zuber aussi, vous en avez parlé avant. On pourrait parler de Fasnacht. Il y a Bedia aussi qui est revenu à IB.
Moi, ça me fait dire quelque chose quand même. C'est-à-dire que, alors, je mets Zuber un peu à part parce qu'il a une jolie carrière. Mais les autres, nos meilleurs buteurs du championnat, nos meilleurs joueurs, c'est quand même dur de s'imposer à l'étranger. Et qu'est-ce que ça dit sur le niveau de la Super League, au fond? Que quand t'es meilleur buteur, parce qu'Nsamé, c'est un des meilleurs attaquants de l'histoire de la Super League, et c'est un joueur formidable, il n'arrive quand même pas à s'imposer à l'étranger. On a eu Hassan Cissé aussi, qui était un des meilleurs buteurs du championnat. Il n'y arrive pas non plus, je ne vais pas faire toute la liste. Bedia, il n'y arrive pas en championship, et il n'est pas arrivé en Allemagne non plus. Ça, moi, je trouve que ça m'inquiète quand même sur le niveau de notre championnat, honnêtement.
Ouais, Chris Bedia, ancien joueur de Servette, effectivement parti d'abord en Allemagne, Union Berlin, et puis ensuite il s'est perdu un petit peu. Il revient en Suisse pour avoir du temps de jeu.
Parce qu'on parle pas de joueurs lambda, on parle de nos meilleurs joueurs.
Exactement. Exactement. C'est là où je voulais en venir. Ouais, ouais. Absolument, absolument. Donc.
Ben c'est là où on voit aussi. Je fais juste un tout petit parallèle avec Shaqiri, qui avait aussi quand même passablement de difficultés en MLS où c'est quand même pas le championnat réputé le plus extraordinaire. Il revient à Bâle, il lui faut quelques matchs pour se régler et maintenant c'est le meilleur passeur, c'est le meilleur compteur du championnat. Alors effectivement, ça pose certaines questions.
Bon, Shaqiri, il a fait Bayern, Liverpool,
oui, ok, c'était pas un titulaire. On est bien d'accord.
C'était pas un titulaire.
On est bien d'accord. Mais sur la fin, il s'imposait pas à Chicago.
Ouais, mais quand il était à son prime, il était quand même dans les gros clubs européens.
Oui, d'accord, mais tu as 100% raison. On parle du Shaqiri d'aujourd'hui. Mm-hmm. J'aimerais bien voir les débats. Quand il arrive, qu'est-ce qu'on dit ? On dit il va quand même lui falloir du temps. Et c'est largement le meilleur joueur du championnat aujourd'hui. Mm-hmm. Alors que, comme tu dis, on disait quand il était aux États-Unis, il était cramé. Et moi, je trouve que ça interroge quand même, au-delà des résultats des clubs suisses en Coupe d'Europe.
Oui, mais pourquoi ? C'est parce que tout ce qui est au niveau entourage, ça a complètement changé. On voit son accueil quand il est arrivé du côté du FC Bâle, c'est monstrueux. Tous ces gens qui ont accueilli Shaqiri, on le met capitaine. Ça a changé de statut. Tu vois, c'est une statue hein, du côté du FC Bâle. Et on sent, et on a su mettre justement en avant Shaqiri, c'est ce qu'il aime. Et c'est ce qu'il veut. Et c'est pour ça que maintenant, il explose. Et alors oui, ça montre aussi peut-être le niveau du championnat suisse. Hein, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est vrai qu'on a su mettre en avant un Shaqiri du côté du FC Bâle. Et on sait l'importance d'un joueur comme ça. Et c'est pour ça qu'il est plus blessé. Parce que du côté de la MLS, il a été beaucoup blessé hein, quand même. Hein.
Et il est très bien utilisé aussi, il faut le dire. Il faut le dire. Fabio Celestini, il a eu l'extrême intelligence de bien l'accueillir, de trouver les bons schémas
tactiques.
Exactement.
Ouais. Et ça lui a pris un peu de temps.
D'attendre.
Ça lui a pris
un peu de temps.
Mais là aujourd'hui, tu regardes l'accolade à la fin. Là. Enfin, c'est même plus qu'une accolade. C'est vraiment un câlin. Ouais. Les deux, c'est... Tu sens qu'en fait, entre eux, il y a une alchimie. Tu as celui qui travaille sur le banc et puis t'as l'autre qui transmet ce que veut le coach depuis le banc sur le terrain et je trouve ça assez formidable. On a déjà dit, Tim, t'étais pas là la semaine dernière, c'est pas que t'étais peut-être pas là, moi j'étais là donc je sais que t'étais pas là, mais on a dit qu'on voulait parler du FC Bâle. On va en parler hein, du FC Bâle prochainement. On a prévu d'aller voir Fabio Celestini justement pour vous proposer une vraie thématique. Faut qu'on avance, on aimerait bien parler de Servette. Il y a Grégory sur notre page YouTube.fr, hein, vous pouvez nous rejoindre, vous êtes de plus en plus nombreux à nous poser des questions, à réagir à nos propos. Il aimerait parler de Thomas Eberle, il aimerait qu'on évoque une éventuelle erreur de casting. C'est chaud, je ne sais pas si vous avez envie d'aller sur ce terrain-là. N'empêche que Servette, franchement, n'avance plus. Nouvelle déception hier soir avec ce match nul contre Guetze. Une seule victoire sur les 10 derniers matchs. On est vraiment sur une équipe qui pédale, quoi, qui pédale. Moi, qui m'inquiète.
Ça devient dur à tous les niveaux. Oui, je suis d'accord, ça devient dur avec Thomas Eberle, avec le jeu que Servette propose. Mais il n'est pas aidé non plus avec ce qu'on lui donne. J'ai envie de dire, on a quand même un certain flou aujourd'hui, ou en tout cas des interrogations sur Servette en coulisses. Est-ce que Servette va recruter ?
Qu'est-ce qu'on lui a donné ?
Voilà, c'est ce que
je veux dire. On lui a rien donné pour l'instant. Ouais.
Oui, alors on a deux joueurs qui sont arrivés cette semaine qui n'ont pas pu jouer. Je me réjouis de voir. Hein. Peut-être que Stallion Deuil, c'est un super attaquant, peut-être. Mais pour l'instant, moi, je déteste tirer sur les coachs et je déteste ça. Mais aujourd'hui, pour moi, il y a une part de responsabilité qui est à 50-50. Je lui laisse encore le bénéfice du doute. Attendons de voir avec ces deux nouvelles recrues qu'est-ce qu'on lui a apporté. Et c'est encore trop tôt pour tirer un bilan pour moi aujourd'hui.
Mais est-ce que cette équipe de Servette n'est pas un peu trop dépendante de Kutesa ? Moi, j'ai vraiment la sensation que quand Kutesa fonctionnait, enfin, il fonctionne toujours d'ailleurs, mais je veux dire, quand Kutesa marquait ses buts et puis qu'on a vu une équipe qui était lancée vers quelque chose, ça fonctionnait. Mais si Kutesa fait pas un top match, mais qui marque les buts, franchement ?
C'est vrai.
Qui marque les buts à Servette ?
Il y a Kutesa, c'est juste, mais faut pas l'oublier que c'est quand même une équipe qui a passablement de blessés. Hein. Mm-hmm. Donc on parle de Doulin, on parle de Frick, on parle de Séverin. Ça fait quand même beaucoup. Hein.
Séverin, d'ailleurs, si tu me permets, je te coupe juste. Séverin, blessé, rouillé, suspendu pour le match à Sion mardi, hein, semaine anglaise. Donc, nouvelle grosse difficulté dans l'axe pour Thomas Eberle.
Après, on n'a toujours pas ce numéro 9 qui marque. Et ça, c'est vrai, c'est la réalité.
Débat, hein. C'est l'éternel débat depuis le départ de Bedia.
Et moi, si j'étais supporter servettien, de voir Bedia, de voir Rensamé signer ailleurs qu'à Servette, ça me ferait mal.
Ah, mais ça a sérieusement grincé des dents, hein, au bout du lac, ça c'est clair.
Parce que, bon, moi je peux comprendre Nsamé, parce qu'il y a eu plein d'occasions. Par contre, Bedia, il est parti, puis c'est juste qu'il est allé à IB, mais personne ne s'attendait à un retour de Bedia à Servette.
C'est une question financière aussi, hein, bien sûr.
Ah, bien sûr. Ouais,
c'est bien possible.
Servette, en tout cas, ne donne pas l'impression aujourd'hui de vouloir lâcher, concrètement, parlant clairement, les centaines de milliers de francs ou les millions qu'il faut pour être prétendant au titre en Super League. Mm-hmm. Voilà. Moi, je l'ai dit depuis le début de saison, je trouve que l'effectif, il est trop juste. Alors, on a eu des débats avec d'autres journalistes, avec des techniciens qui me disent « Non, mais c'est bon, ça va suffire et tout, il n'y a pas de Coupe d'Europe, éliminez tout en Coupe de Suisse. » Mais moi, je suis désolé, on le voit maintenant, Séverin blessé, rouillé, suspendu, il n'y a plus de défense centrale. Enfin, ça a quand même été un peu minimaliste, je trouve, cette année.
Alors, il y a Grégory qui nous entend, qui nous écoute et qui trouve que le coaching d'hier soir n'était pas bon. Contre Guetze. Ça m'amène à poser une question. Je remets pas en cause le coaching, absolument pas. Je suis comme toi, Tim. Moi, j'aime pas tirer sur les entraîneurs, mais pourquoi Servette, et là, c'est toi que j'ai envie d'entendre, justement, Lucien, le coach, pourquoi Servette a choisi tout à coup de reculer? Qu'est-ce qui fait que Servette, tout à coup, recule? Il y a 101 à encaisser, alors que peut-être il y avait la possibilité d'aller marquer un 2 à 0. Pourquoi tu recules?
Ils arrivent aussi dans cette phase de doute. Okay. Ça fait plusieurs matchs aussi, et on l'a entendu aujourd'hui, hein, avec Yverdon. Dans l'interview de Paul Bernardoni, qui disait justement que ils menaient 1-0 et puis ils ont commencé à reculer parce que t'as plus cette sérénité. Et c'est vrai qu'une victoire peut engendrer du positif qui fait que t'es mieux dans ta tête. Et on reprend le match de hier, IB et Lausanne. IB qui gagne très rapidement 2-0, qui a été dominé en long et large sur toute la partie, presque le reste de la partie, mais qui a commencé à douter de plus en plus et puis qui n'était pas serein jusqu'à la fin de la partie.
Mais qui recule? C'est l'équipe qui recule c'est le coach qui invite l'équipe à reculer? Comment ça se passe?
Alors après, ça dépend. Là, on l'a entendu aujourd'hui, par exemple, par rapport à Yverdon, où l'équipe a reculé, peut-être inconsciemment ou consciemment, du fait de maintenir ce résultat. Et lui, par son coaching, a fait changer les choses à la mi-temps en disant « Non, maintenant, il faut qu'on aille plus haut. C'est important, il faut faire attention. » Est-ce qu'il y a eu ce coaching ou pas du côté de Servette? Je ne sais pas, je n'étais pas à l'intérieur. Mais ça, s'il y a ça, un coach peut apporter ça. Un coach peut aider à aller chercher plus haut. Mais après, ça dépend de l'intention qu'il a. Et est-ce qu'il a les joueurs qui sont capables de le faire? Et ça peut être changé. Ça peut se faire.
Non, mais c'est ça, mais on en revient à l'effectif. Tu dis Depodos à Derek Kuteza. Ok. Ton autre joueur créatif, qui est un joueur magnifique, c'est Alexis Antunes, qui est malheureusement un peu fragile, qui n'arrive pas à enchaîner, qui n'arrive pas à faire des saisons pleines et tout. Mais pour moi, il n'y a pas assez de monde. Mon idole absolue en Suisse, c'est Miroslav Stevanovic.
Mais on ne savait pas.
J'essaie d'être lucide et puis je vois que c'est difficile. Je me suis fait un petit peu prendre à partie par des fans de Grenade sur Twitter, j'assume. Ces cannes sont en train de décliner. C'est plus un joueur dominant majeur de Super League aujourd'hui. Ça me fait mal de dire ça, mais c'est la vérité. Et du coup, Servette aujourd'hui manque de créativité, manque d'allant offensif et il manque du monde. Je suis désolé. Il manque de la qualité de cette équipe offensive. Effectivement, il y a des super joueurs, Kuteza, Antunes, Stevanovic, mais pas assez pour être tout en haut aujourd'hui sur une saison, parce qu'il y a des blessés, des suspendus, du manque de rythme.
Oui, la différence, en fait, ce que tu essayes de dire, c'est la profondeur de banc. Parce que Bâle a un bon plus profond, parce que Lugano a un bon. D'ailleurs, il y a ce match qui me revient tout le temps en tête, hein, le Lugano-Servette du Cornaredo, où Lugano gagne 3-1. Où d'ailleurs Servette mène 1-0, après il y a la boulette de Malle, mais je veux dire, c'est pas cette boulette qui fait la différence dans le match, c'est en deuxième mi-temps, quand t'as Crocitorti qui peut balancer tous les joueurs qu'il a sur le banc, puis qui perd pas en qualité sur le terrain, et ce que Eberly n'a pas pu faire.
Mais on y revient, si Servette lâche 3 millions sur Kevin Carlos, comme ils auraient pu le faire, c'est beaucoup 3 millions, là, je suis pas de les comptes et tout, mais Kevin Carlos, il est à Servette, il est pas à Bâle, il y a peut-être pas prendre 42
équipes. Je suis assez d'accord, et à part ça, j'aurais vachement kiffé de voir Kevin Carlos là-bas devant, parce que...
Pas 10 points.
10 points, non.
Pas, j'ai dit ça,
il n'y a pas 10 points. Non, mais il n'y a pas 10 points. Et Kevin Carlos là-bas devant, t'as de quoi faire, franchement.
Ah ouais, c'est sûr que t'as quoi faire, et puis on le voit du côté du FC Bâle, et puis profiter de le voir en Suisse, je pense, il va bientôt partir.
Ouais. Je vous propose d'écouter l'analyse, vous allez voir, très lucide, de Steve Rouillet après le 1 partout de samedi soir entre Servette et Guetze.
Steve Rouillet, une soirée à nouveau décevante pour Servette, match nul, mais pas grand-chose à reprocher ce soir avec deux poteaux et vraiment la malchance qui poursuit un peu le club.
Non, je pense pas que ce soit de la malchance, je pense qu'ils ont marqué dans un moment faible de notre part. Voilà, une succession de mauvaises passes, de ballons perdus bêtement, et voilà, ils ont pris confiance, ils ont réussi à égaliser. Je pense que c'est pas de la malchance, c'est notre faute. Voilà, je pense qu'on perd deux points aujourd'hui, c'est très frustrant, je suis très déçu aussi. Voilà, c'est des matchs qu'on ne doit pas perdre. Je pense qu'on a fait une très bonne première mi-temps. On a mis pas mal de rythme. On est arrivé à marquer 1-0 en deuxième. Et voilà, on n'a pas réussi à mettre le deuxième. Mais voilà, faut pas lâcher. Je pense qu'il y a un derby qui est important aussi la semaine prochaine. Et on va bien récupérer pour bien l'aborder.
Qu'est-ce qui manque actuellement à Servette pour tuer ce match en fait dans cette partie? C'est vraiment la confiance qui vous manque?
Bon, je pense que c'est un peu tout. Hein. Si tu ne gagnes pas les matchs, il doit toujours manquer peut-être 10%, 15%, je ne sais pas. Mais voilà, comme j'ai dit avant, je pense qu'on a fait quand même un bon match, même s'il y a une période un peu compliquée quand voilà, Guetze a marqué. Et voilà, c'est manque de réussite aussi. Je pense que voilà, si cette victoire va tomber un jour, je pense qu'après on va faire une bonne série. Parce que voilà, on a le jeu, on a les occasions. Voilà, il manque ces 3 points pour nous lancer vraiment dans cette année.
Et c'est quoi tous les éléments positifs qu'on va quand même retenir pour aujourd'hui, qu'il faudra amener samedi à Sion mardi à Sion pour avoir ce déclic finalement?
Non, je pense qu'on a été offensivement assez bon dans la construction, dans les mouvements. Guetze, voilà, c'est aussi une équipe en pleine confiance. Je pense qu'ils sont une bonne série d'invincibilité aussi. Et c'est pas évident de les mettre en difficulté. On a vu que quand on arrive à jouer vite en une touche, et on peut mettre en difficulté n'importe quelle équipe. Voilà, il manquait voilà, ce deuxième but qui pouvait nous donner un peu plus d'air pour la fin du match. Et malheureusement, on a pris ce but.
Servette qui se rendra donc à Tourbillon mardi sans Steve Rouillet en défense centrale. Steve Rouillet suspendu. Je vous propose de parler de Sion battu au Cornaredo 3-2 par Lugano, battu dans les toutes dernières secondes. Ça fait 0 point en 2025 pour Sion. Est-ce que vous êtes inquiet sur la base de ce que vous avez vu hier? Oui, non, pourquoi?
Moi, je n'ai pas vu le match parce que j'étais à Lausanne, donc je ne peux pas te répondre directement dessus.
Inquiet, non. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vu le match. Il y a quand même passablement d'éléments qui font que ça a été un petit peu contre Sion. Et surtout sur les matchs qu'ils ont joués en 2025, ils ont joué quand même des fortes équipes. Ils n'ont pas joué des équipes contre
Mais
qui...
C'est un sacré calendrier.
Ils ont un calendrier qui est difficile, ouais. Ça c'est sûr, on le sait. Et ils le savaient, évidemment. Après, c'est vrai que moi, j'ai bien aimé quand même la force de caractère de ce FC Sion. Certes, qui menait 1-0, qui après ça revient à 1-1, ça passe à 2-1, mais qui réagit parce que tu encaisses quand même tardivement ce 2-1 et puis tu réagis bien. Et malheureusement, il y a ce pénalty qui est dans les dernières minutes, qui est très très difficile, très dur contre le FC Sion. Sans parler de la faute sur Mirantchouk en début de match.
Mais parlons-en, parce que c'est une vraie thématique. Ça, on doit en parler.
Pour moi, il y a faute.
La faute sur Mirantchouk, ouais. Après 10 minutes. Il y a faute.
Pour moi, il y a faute.
Il y a faute.
J'ai pas vu.
T'as pas vu.
Je suis désolé.
Tu dis, il y a faute.
Non, il y a faute.
Il y a faute. Non, franchement, il y a faute. C'est très surprenant.
La façon dont il tombe fait croire qu'il a tendance un petit peu à se laisser tomber. Mais non, mais il va seul au but.
Il y a contact.
Il va seul au but. Donc c'est rouge direct. Ça change toute la partie. Toute la partie.
Et après. Je veux pas être le chat de mauvais augure, mais je me souviens d'un Sion. L'oiseau de mauvais augure, pardon. J'ai confondu. Il y a pas si longtemps que ça, à Tourbillon, il y a quand même aussi eu un match où Sion s'est retrouvé très vite en supériorité numérique et où finalement contre Guetze, ça s'est un peu retourné contre Sion. Ça ne veut pas dire que Sion aurait gagné, mais effectivement, change l'histoire du match.
Bah, chaque match a son histoire, justement. Et puis l'histoire là, c'est que ça aurait pu changer la physionomie du match. On ne sait pas, on ne saura jamais, évidemment. Derrière, ils ont quand même réussi à mener 1-0. C'est Mirantchouk qui le met. Donc ça, c'est une très bonne chose pour eux.
Oui.
Très, très bonne chose pour eux. Mais après, c'est vrai que la dernière faute, surtout... dans le temps additionnel.
L'intervention de Belhadj sur Ayrizi, non sifflé, qui donne le corner, qui donne le penalty ensuite.
Ouais, et puis on ne sait même pas s'il y a corner à la base. Donc elle est très difficile celle-là. Et puis surtout, c'est le tacle qu'il y a sur le défenseur. Donc là, pour moi, elle est très difficile. Maintenant, bah voilà, ça a été sifflé comme ça. Tu ne dois pas non plus te retourner là-dessus ou bien trouver des excuses par rapport à ça. C'est pour ça que moi ça me fait pas peur par rapport à Sion, parce que le calendrier certes il est difficile, mais il y a une force de caractère quand même dans cette équipe. Maintenant il est quand même en train de chercher justement sa nouvelle défense. Il faut aussi des minutes de jeu, il faut aussi une habitude un tout petit peu à jouer ensemble. Rassuré, non, pas encore, parce qu'il y a quand même 3 goals, mais rassurant, oui, quand même sur le long.
Didier Tolo, il a toujours trouvé des solutions. Quand il y a eu le creux au premier tour, il a changé un peu de système tactique, il a essayé. Il
n'a
pas hésité à prendre des décisions fortes, c'est-à-dire sortir Reto de Ziegler et Anton Mirantchouk qui s'est blessé, mais il l'a quand même tenu écarté de son schéma. Là, on voit que Mironchuk revient. Ça, c'est la première bonne nouvelle. C'est la surprise, hein, parce qu'il était vraiment dans le creux en ce début d'année. Et là, il a fait un bon match hier. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis après, si on... Alors, juste pour l'arbitrage, juste pour la petite histoire quand même, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on entend depuis hier, oui, on était mieux au Challenge League sans l'avoir. Et puis, quand ils étaient au Challenge League, ils n'avaient pas l'avoir, ils étaient jusqu'au TAS pour dire qu'il fallait l'avoir contre ce fameux match.
La coupe contre Lugano.
Donc ça me fera quand même toujours rire. Mais oui, hier, alors concrètement, sérieusement, hier, ils ont été lésés par l'arbitrage, ça, c'est clair.
Ok, comme ça, on est clair là-dessus. Tu as anticipé un petit peu une vraie question que j'avais envie de vous poser, c'est-à-dire que... Il y a eu un passage à vide de plusieurs mois durant l'automne et Didier Tolo a trouvé la solution en changeant de système. Là, vous voyez quoi comme possibilité? Alors, tu as parlé de Mironchuk, qu'est-ce que vous voyez d'autre?
Là, concrètement, il joue sans avant-centre. Donc, est-ce qu'il va continuer comme ça? Est-ce que le but de Dejan Sorgic va peut-être le faire changer un peu?
D'ailleurs, j'ai une question pour toi, Tim. Dejan Sorgic qui célèbre pas son but, ça vous a pas choqué, personne?
Ouais bah.
Il marque ce but, il marque le 2-2, très important. Il offre potentiellement un point à Sion.
Bien sûr qu'il est
il
fâché.
Il se retourne. Ouais.
Tant mieux qu'il est fâché. Il est avant-centre d'une équipe qui joue sans avant-centre parce qu'il n'est pas assez performant. Donc j'espère bien qu'il est fâché. Ouais.
Bien, on écoute les réactions d'après-match. C'était hier soir au Cornaredo.
Le vent en ce moment, il ne tourne pas en notre faveur depuis qu'on a repris. Mais je dirais qu'il y a du positif. Il ne faut pas avoir que négatif après cette défaite. On n'a pas encore vu les images, mais on ira les voir. Mais ouais, ça fait mal de prendre ce but à la dernière minute. Et puis voilà.
Le coach, il a eu des mots forts. Il nous a dit qu'on avait fait un bon match, que ça s'est joué sur un détail. Mais maintenant, il y a la semaine anglaise, comme on sait. Il y a Servette mardi, c'est un derby, il faut vite réagir. C'est ça c'est ça qui est bien dans le foot, c'est qu'on peut réagir directement trois jours après. Et on se doit de réagir à la maison à Tourbillon. Les points, ils vont revenir, on sait. On est dans une phase un peu négative, on l'avait déjà vécu. J'espère que la série, elle va s'arrêter mardi, mais on est dans le bon. On a déjà vécu une situation un peu similaire, où on avait fait 8-9 matchs sans victoire, et on avait réagi, et derrière, on avait enchaîné une belle série. On se connaît, on se dit les choses, on a un groupe sain, on est positif. On sait qu'on va réagir et on va récolter des points.
Et c'est important ce qu'il dit là, Ali Kabak-Alman, il dit... On est déjà passé par là. On s'est dit les choses. On a confiance en nous. Et c'est pas juste de la com, là. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a de la sincérité dans cette interview. Surtout venant d'Ali Kabak-Alman, je peux dire.
Ah non, mais c'est costaud. Sion, mentalement, cette saison, avec Didier Tolo, c'est costaud. Il y a des certitudes. Il n'y a pas la qualité pour être une équipe du top 6. Ça fait depuis le début de saison qu'on le dit. Il manque notamment de qualité offensive. Mais c'est une équipe qui, mentalement, dans son comportement, dans son état d'esprit, elle est irréprochable. C'est une équipe de Didier Tolo.
Ouais, ne ratez pas. Hein. Le match de Sion, ce sera mardi à Tourbillon contre Servette. Ça s'allume déjà sur la page YouTube. Tant que ça reste bon enfant, comme vous le faites, ça va très très bien. On ne dépasse pas les limites. Merci. On va passer à Lausanne, qui a perdu hier soir à la Tuilière contre IB. Je vous propose d'abord de se refaire le film de cette rencontre. C'est dans les conditions du direct avec Vincent Rigolet.
Et c'est tout de suite parti très vite avec Montero sur le couloir gauche pour IB qui attaque vers la gauche de votre écran. Montero dans la surface, Montero la frappe et l'ouverture du score. Après 14 secondes, IB avait besoin de certitude. Ben c'est peut-être ce but de Montero qui va lancer la machine.
Très très curieux de voir ce Lausanne maintenant essayer de retourner.
Oh, le coup franc direct repoussé par Marvin Keller. Magnifique tentative signée Kobach vendredi. Grinich, cette fois-ci le corner au deuxième poteau, contré par Sanchez, c'est Benito qui était à la réception de ce ballon. Ah ouais. Là, il y a une faute de main potentielle.
Il y a un Bernin qui a tout de suite levé le bras.
Qui joue de la tête et...
Ça va être pénalty alors.
Et ça va être un pénalty. Ouais. Bon, on va suivre ce pénalty où Grinich s'est transformé. Letizia parti du mauvais côté, 2-0 à la 12e minute pour IB qui est parfaitement dans son match avec ce petit coup de pouce. Attention à ce ballon. Oku il a un peu glissé, Oku toujours. Le centre en retrait, Roche la frappe, c'est contré, deuxième fois, la transversale. Ah, il fallait réagir vite, il l'a fait Jamie Roche, mais il manque de réussite sur ce coup. Diabaté qui réussit son contrôle, qui peut ouvrir le jeu vers Sanchez, qu'on a très peu vu offensivement. Alvin Sanchez, il va y aller tout seul, il frappe et l'arrête Keller. Magnifique parade de Marvin Keller pour empêcher Sanchez de réduire l'écart. Seine, la remise Diabaté pour Poitiers. Le tir de Poitiers et celle de 1 du LS.
Metz à l'heure de jeu. 30 minutes à jouer et ce match qui est relancé, Carlos.
Diabaté encore pour une nouvelle chance de centre. Tendu, renvoyé vers Bernet qui n'a pas frappé. Bernet maintenant le tir. Et le réflexe de Keller. Le réflexe de Keller, incroyable. C'est pas but, il y a faute sur le gardien bernois. Et j'ai bien le sentiment que ce ballon n'a pas passé la ligne. Ce qui est passé devant Wakomi, le très bon centre de Sanchez. Incroyable raté. Diabaté qui doit conclure à l'image d'Aldini tout à l'heure. C'est la deuxième énorme occasion pour le LS.
Première défaite du Lausanne Sport à la Tulière depuis 4 mois. Un peu de maladresse, un peu de malchance. On peut comprendre la frustration et des fans, et des joueurs, et du staff du LS. Parce qu'il y a 70 très très bonnes minutes après le 2-0 des Bernois.
Oui, mais le match il commence dès la première seconde et la première action elle fait mouche. Et ça, ça fait mal, ça fait très très mal pour Lausanne évidemment. Surtout qu'IB n'avait plus remarqué depuis 360 minutes, je crois. Hein. Donc ça faisait pas mal de matchs. Hein. Ouais. 4 matchs qu'ils n'avaient pas remarqué.
Contini est arrivé.
C'est vrai que ça fait très très mal. Et puis derrière, ça enchaîne avec un goal directement à la 12e minute sur penalty. Maintenant, Lausanne a été bon. Hein. Lausanne a bien joué, a eu ses occasions. Un peu de malchance, oui, mais la malchance fait partie du foot. Quand tu la mets pas au fond, c'est qu'il te manque quelque chose. Et j'ai envie de dire. Avant Noël, c'est Lausanne qui faisait ça. C'est Lausanne qui marquait le premier goal. C'est Lausanne qui marquait le deuxième goal. C'est Lausanne qui faisait mal. Et là, à l'heure actuelle, non. En tout cas, pour le moment, je ne mets pas du tout de sonnette d'alarme du côté de Lausanne. N'oublions pas que c'est le top 6 qui vise. Ils y sont. Certes, c'est très serré, mais c'est dommage de commencer un match comme ça.
C'est vrai, Tim. Hein, on était habitué à voir Lausanne commencer ses matchs très fort, jouer très haut. Mmh. Le premier quart d'heure, surtout à la Tulière. Normalement, c'était l'adversaire qui était en difficulté. Et là, c'était le contraire.
Ouais, Ludovic Magnard, il a dit hier après le match, on avait quelqu'un en face qui nous connaissait très bien, c'est Matteo Vanetta, qui savait comment on pressait, qui savait peut-être aussi qu'Olivier Custodio, enfin comme tout le monde, mais qui a peut-être donné le petit input de dire le premier ballon, peut-être le mettre à gauche. Et voilà, oui, c'est dommage pour le LS. Maintenant, moi, je suis comme Lucien, je ne suis pas du tout inquiet. Le match, il était très cohérent. On a toujours le même LS en fin de saison dernière, et voilà, ça se joue pour moi sur des détails. Alors peut-être, oui, comme tu le dis, ces détails, il faut les provoquer, mais on a quand même un bon Lausanne Sport, je trouve.
Et puis les joueurs, ils en étaient conscients à la fin du match, effectivement extrêmement frustrés, parce que après 12 minutes, c'est ça qui tourne le match, mais ils savent qu'ils ont montré des très bonnes choses, ils savent que Young Boys peut être très heureux de repartir avec 3 points, parce que après les 12 premières minutes, on n'a plus vu IB. Vraiment. Donc, moi non plus, je ne me fais aucun souci pour Lausanne. Voilà, c'était un match. Voilà. Ils n'ont pas suggéré ce premier quart d'heure. Ça leur a porté préjudice, mais pas de souci, moi, je pense.
T'as pas fait une interview de Noé Dussen par hasard hier soir?
J'en ai fait plein, je ne sais plus.
Tu sais quoi, on va écouter Noé Dussen et puis ensuite, on en parle.
On a été pris, à froid. L'engagement, balle dans le dos, un contre un, il rentre intérieur. On sait qu'on doit, quand il y en a un qui rentre intérieur, on doit faire un sandwich, on l'a pas fait. Après là le goal ouvert, je pense que Carlo voit pas la balle arriver, ça va vite. Après je pense qu'on a mis un peu de temps à rentrer dans la partie, on était secoué. Après il y a ce deuxième but qui vient, il y a un corner, il saute avec, ouais, Hens, penalty. Après je pense qu'on a eu une très bonne réaction. Après 20 minutes, je pense qu'on était dans le camp d'IB, on prenait tous les ballons, le deuxième ballon on était là. Un but hors jeu, moi j'ai une grosse occasion de la tête que je rate. Ensuite je pense que IB, deuxième mi-temps, ils sont contents de rentrer avec ce 2-0. Deuxième mi-temps, je pense qu'on rentre très très bien aussi avec l'envie d'aller vers l'avant. On arrive à les faire douter. Il y a ce 2-1 qui vient et puis on a encore une grosse occasion avec Alban qui est un plat du pied, il la met au-dessus. Donc, je pense qu'IB aujourd'hui est super content avec ce point. Deuxième mi-temps, je sais pas s'ils ont une frappe. Je m'en souviens pas en tout cas, ouais, peut-être un coup franc que l'arbitre siffle gentiment, une petite faute. Mais aujourd'hui, ouais, on peut être content de notre prestation. Malgré qu'on a pris deux buts, ça faisait longtemps qu'on a pris des buts à la maison. On voulait garder cette solidité défensive. Aujourd'hui, c'est vrai qu'elle a volé en éclat après 20 secondes. Il faut se concentrer, tout va pas être parfait tout le temps. On apprend, c'est la partie du sport, on peut pas tout le temps gagner. IB, c'est une bonne équipe, ils jouent Champions League, donc il faut respecter aussi qu'ils ont des qualités individuelles qui sont très très bonnes sur le terrain. Mais aujourd'hui, on est un peu déçu qu'on n'a pas su revenir au score, parce que sur l'ensemble du match, je pense qu'on a eu, on a vu un très beau match. Il faut garder ses ingrédients, il faut éviter ces petites erreurs, parce qu'il y en a, chaque match, il y en a. Donc voilà, il faut continuer à travailler. C'est pas parce qu'on ne gagne pas trois matchs d'affilée que ça y est, on va crier. On est tout le temps bien présent. Je pense que c'est une bonne équipe de Lausanne. Donc continuer avec nos armes, nos forces. Il faut appuyer sur nos forces et il faut appuyer là où l'adversaire a mal, quand on attaque et qu'on arrive à aller, avec notre pressing très haut, à les contrer et à leur faire mal. Je pense qu'aujourd'hui, je pense que Young Boys, là, quand ils rentrent dans la serre, ouf, ils soufflent, hein, parce qu'aujourd'hui, ils ont eu du mal. Faut pas croire.
Ouf, on souffle aussi ici en plateau. On va vous demander juste savoir qui a été le meilleur Lausannois pour vous hier soir. Quel est le Lausannois qui vous a plu davantage? Stéphanie cherche, Lucien.
Moi j'ai trouvé Coindredi très bon.
Ouais, c'est assez d'accord. Ouais.
Ouais, après, moi j'ai bien aimé encore les joueurs offensifs du côté de Lausanne. Je vais pas dire un nom comme ça.
Alors je te sors une question dans le chat. Théo demande s'il manque un 9 à Lausanne.
Oui. À l'heure actuelle, lui. Ok. 9, oui. Alors, on sait, on attend toujours plus de Kalisen ou Aydini. Mais Aydini.
Qui n'est pas un 9, on rappelle.
Qui n'est pas un 9. Mais Kalisen, on attend toujours.
Ouais.
Et on espère toujours. Et oui, le jour où ça débloque, ça va vraiment débloquer, je pense, mais ça va toujours pas débloquer. Bien. Donc c'est ça qu'on attend un tout petit peu plus de lui, mais c'est clair que pour moi, il manque un 9. Ouais.
Top. On regarde encore une séquence qui a fait parler. Hier, c'est la faute d'Ugrinić sur Diabaté en première période. Alors là, moi j'ai les copains qui sont autour de la table qui s'approchent de l'iPad pour regarder ça de plus près. Parce que évidemment, je vais vous demander, les gars, pour vous, c'est faute, c'est pas faute, oui, non, pourquoi? En tout cas, ça a fait beaucoup parler à la Tuilière.
Pour moi, il n'y a pas faute. Pour moi, ils se foncent dedans. Ouais, comme on peut se foncer dedans? Oui, alors, je comprends aussi ceux qui disent qu'il y a faute. C'est 50-50. Mais le problème, c'est que vu que ce n'est pas une faute manifeste, on ne va pas y revenir spécialement dessus. Pour moi, c'est... Oui, c'est pas faute. Mais je peux comprendre aussi les arguments contraires.
Moi, je dis 51 faute, 49 pas faute. Donc, je donne une pénalty.
Ah, ils sont mouillés, Tim. Hein. Lucien.
Non, mais pour moi, déjà, le petit pont, il est joli. C'est déjà un très beau geste. Par contre, il n'arrive pas à récupérer le ballon derrière, de toute manière. Donc, pour moi, oui, c'est vrai qu'il se jette très facilement sur Ugrinić. Faute, pas faute, j'aime pas vraiment trop.
Est-ce qu'il y aurait l'intervention de la VAR? Parce que voilà, c'est après. C'est ça qu'il faut.
Non, c'est pas manifeste.
C'est pas manifeste, justement. C'est pour ça qu'il faut expliquer aux téléspectateurs qui demandent pourquoi la VAR n'intervient pas. Comme ça, on est complet et on est juste dans nos explications. On regarde un dernier coup d'œil sur le chat pour vous dire, voilà, est-ce qu'il manque. Ah oui, est-ce que Lausanne va recruter encore au Mercato? Tim, est-ce que tu as des infos?
Peut-être en latéral droite, mais...
Parce qu'il ne vient pas, ce latéral droit. Ça fait tellement longtemps qu'on nous l'annonce.
Je pense que c'est la seule chose qui pourrait bouger, à mon avis, à part s'il y a un départ.
Pas de neuf?
Je n'ai pas la pression. Non. Moi, je suis comme Lucien. Moi, j'aime bien Kalisen. Il a un esprit top. Moi, j'aime beaucoup ce joueur.
Bien. Alors, on attend le latéral droit à Lausanne. Et vous, on vous attend la semaine prochaine, dimanche, comme tous les dimanches, pour le débrief des journées de Super League. C'était un plaisir de partager encore une fois ce match après match avec vous. Merci pour votre participation. Merci également à Stéphane Amoruso, à Tim Guimain et à Lucien Denervaux. À bientôt. Ciao.